Chapitre 10. Clémence ne resta pas longtemps avec le marquis. Bientôt, celui-ci, qui ne la quittait pas des yeux, remarqua qu'elle s'agitait sur sa chaise comme si elle éprouvait un malaise. Elle fermait les yeux, puis, les rouvrant, elle se passait les mains sur le front. « Qu'avez-vous ? » demanda-t-il.
« J'étouffe. »«
Je vais faire éteindre ce feu, si vous voulez. »«
Ce n'est pas la chaleur du feu qui me suffoque, c'est l'émotion que je viens d'éprouver. » « Ah, mon ami, je suis forte contre les souffrances physiques, mais vous me voyez bien faible contre les tortures morales. Elles me tueront. »
Que faire? Elle était vraiment dans un état pitoyable, la respiration haletante, les yeux troublés, les lèvres tremblantes. Parmi tous les remèdes que le marquis lui proposa, il ne s'en trouva qu'un qu'elle accepta, ce fut de prendre l'air. Il eût voulu l'accompagner dans cette promenade, mais elle ne permit pas qu'il se fatiguât. À peine dehors, sa respiration se rétablit et ses lèvres cessèrent de trembler. Prenant la cavée, elle arriva en quelques minutes au village où elle se fit donner le charaban de l'auberge. Trois quarts d'heure après, elle était à Annebault, à la porte de l'abbé Guillemite. C'était quelque chose d'avoir dressé une barrière devant Madame Méraud et devant Louis, mais ce n'était là qu'une faible partie de sa tâche. Denise restait, et c'était de ce côté que les plus grands dangers étaient à craindre. Que celle-ci s'expliquât franchement avec son parrain, qu'elle lui dit qu'elle aimait Louis, et le marquis, bien certainement, voudrait les marier. Quel pouvoir conserverait-elle sur le marquis le jour où Denise et Louis, mariés, seraient réunis contre elle ? Celui de la passion ? Oui, sans doute. Mais cette passion serait-elle assez puissante alors pour aveugler le marquis au point de lui faire oublier dans un testament ce qu'il verrait sans cesse ? Si elle pouvait se flatter d'inspirer au marquis, de lui dicter pour ainsi dire le testament qu'elle voulait, c'était à condition que celui-ci serait maintenu dans l'isolement. N'ayant auprès de lui que celle qu'il aimait, ce serait à celle-là qu'il penserait au moment de la mort. Tandis que, s'il voyait auprès de son lit Louis et Denise mariés, ce serait à eux. Ce serait à eux. Il ne fallait donc pas que ce mariage se fît. Et, pour l'empêcher, il fallait tout d'abord que le marquis ne vît pas en ce moment Denise, ou tout au moins qu'il ne pût pas s'entretenir librement avec elle. Mais pour cela, elle avait besoin du concours de l'abbé Guillemite. Car le marquis voudrait assurément venir au couvent de Sainte-Rutilie et elle ne pourrait pas le retenir à Rudemont. Le curé d'Annebault voudrait-il lui accorder ce concours ? Étant descendue de la voiture à la porte piétonnière, elle entra dans le jardin du doyenné. Chose curieuse et qui en eût dit long à un observateur, ce jardin, depuis qu'il était entre les mains de l'abbé Guillemite, était resté dans le même état qu'au temps où il était cultivé par son prédécesseur, le vieux bonhomme Pelfren. Encore même était-il moins bien soigné. Les roses et les juliennes, qui, du temps du vieux curé, fleurissaient dans les plates-bandes pour fournir de la pavée au Saint-Sacrement, avaient été arrachées et remplacées par des légumes utiles à la consommation ménagère. En 10 années, ce prêtre, qui avait manié des millions, n'avait pas trouvé 50 francs pour égayer par des fleurs ces tristes carrés de choux et de haricots, séparés les uns des autres par de larges pierres tombales formant allées. Son esprit et ses idées étaient ailleurs, il n'avait pas besoin d'être égayé, encore moins d'être reposé. Les émotions de la lutte lui suffisaient, avec les satisfactions du succès entrevu. Dans un des carrés de ce jardin, elle trouva le domestique du doyen en train de retourner la terre et si bien absorbé dans son travail qu'il ne l'entendit venir que lorsqu'elle fut près de lui. « Monsieur le doyen n'est pas ici, » dit-il en levant la tête, mais sans interrompre son travail. « Si vous voulez parler à monsieur l'abbé Colombe, je vais le prévenir. » Mais ce n'était point à l'abbé Colombe qu'elle avait affaire, c'était à l'abbé Guillemite lui-même. « Alors, il faut aller à la serrurerie, où vous le trouverez pour sûr. »«
Et où est-ce ? » ?»«
Comment, madame ne connaît pas la serrurerie ?» dit le domestique en se posant pour la première fois sur sa houe, tant sa surprise fut vive. Et, de fait, il fallait que Clémence eût quitté le pays depuis 2 ans pour ne pas connaître cette nouvelle fondation industrielle de l'abbé Guillemite.
L'idée lui étant venue d'orner les chapelles de son église et les travées du chœur de grilles de fer, il avait voulu faire fabriquer ces grilles à Annebault, ce qui tout d'abord paraissait assez facile, puisqu'à Annebault, le travail du fer a pris, en ces dernières années, un grand développement. Croyant qu'il trouverait des ouvriers pour exécuter sur ses dessins ce qu'il voulait, il s'était comme de coutume bravement mis à l'œuvre. Mais il n'avait pas tardé à éprouver des mécomptes et surtout des difficultés avec l'entrepreneur qu'il avait choisi. Son travail n'était pas un travail courant, il y avait des tâtonnements, des retouches, des pièces manquées et surtout des pertes de temps qui désorganisaient l'atelier. De là les plaintes de l'entrepreneur. Alors l'abbé Guillemite avait voulu s'affranchir de ses entraves et de ses retards. De même qu'il avait fondé une imprimerie en taille douce lorsqu'il avait eu besoin d'une grande quantité d'images de sainteté, calculant qu'il y aurait bénéfice pour lui à vendre ce que jusque-là il avait acheté. De même, il s'était décidé à fonder un établissement de serrurerie artistique qui, travaillant d'abord pour son église, chercherait ses bénéfices dans des fournitures au public. Il avait donc acheté l'atelier de son entrepreneur et aussitôt, il avait mis l'affaire en action au capital de 1 500 000 francs. L'action de 500 francs ne coûtait que 450 à ceux qui, à un titre quelconque, ne fût-ce que pour 10 francs, avaient été les bienfaiteurs de l'église d'Annebault. Si on n'était pas encore inscrit sur la liste des fondateurs de cette église, on n'avait qu'à apporter son offrande et immédiatement on recevait, moyennant 450 francs, une action de la compagnie de la serrurerie artistique qui, pour les profanes, coûtait 500 francs. De plus, on avait le droit, pour la souscription de 10 actions, à la fondation d'une messe annuelle dont le titre était transmissible, de telle sorte qu'en concourant à une bonne affaire, on travaillait incidemment à son salut ou à celui des personnes qu'on affectionnait. Pendant un an, la contrée avait été inondée des prospectus de la nouvelle affaire du curé d'Annebault, qui, bien entendu, ne s'était pas réservé la gérance officielle de l'entreprise, mais qui, cependant, en avait conservé la direction entière, artistique et financière. Malgré le remélange des choses industrielles et religieuses, malgré les invocations à la Sainte Vierge, dont la protection était assurée, et les promesses de dividendes de 12 à 15%, sans compter les messes, le capital n'avait pas été entièrement souscrit, et l'affaire ne fonctionnait que d'une façon tout à fait irrégulière et illégale. Avec un procureur impérial, moins dévoué au parti clérical que celui de Condé, cela eût pu attirer des désagréments à l'abbé Guillemite. Louis Méraud, observateur rigoureux de la loi, avait même parlé plusieurs fois de cette affaire à son chef. Mais celui-ci avait toujours répondu « c'est une bonne œuvre ». Et le curé d'Annebault avait pu continuer la libre distribution de ses prospectus et de ses incessants appels de fonds. En somme, l'affaire marchait et elle commençait à promettre des bénéfices car l'usine vendait cher ses produits, certaines personnes trouvant aux pincettes fabriquées avec l'aide de la Sainte Vierge des mérites qu'aucune autre fabrique n'eût pas pu leur donner. Quand Clémence arriva à l'usine, qui est située au bord de la rivière, dans la partie industrielle d'Annebault, on lui dit que l'abbé Guillemite était à la forge, dont on lui indiqua la grande porte qui était ouverte à deux battants. De loin, elle aperçut deux forgerons qui, le tablier de cuir au cou, travaillaient sur une enclume, une pièce de fer rouge. Sous le marteau, une pluie d'étincelles jaillissait autour d'eux et tombait sur le sol noirci. Devant eux, un prêtre, tenant un dessin à la main, suivait attentivement leur travail. C'était l'abbé Guillemite qui, tête nue, la soutane retroussée dans la ceinture, sans plus de souci des étincelles que si elles avaient été de la poussière de bois, les surveillait et leur donnait ses instructions. Ce fut seulement quand la pièce fut remise à la forge qu'il se retourna et qu'il aperçut Clémence. « Comment, madame, vous ici ? » dit-il, sans montrer une bien vive surprise. « J'ai besoin de vous parler et... »« Alors, madame, » dit-il en coupant court aux politesses, « entrons dans mon bureau. »